بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاعه الإسلام الحمد لله. Ce soir on a complété la sourate Ali Imran. Et donc inshallah dès demain on va commencer sourate An-Nisa. Parmi les versets qu'on a retenus ce soir, il y a le début du quatrième juz, du quatrième sipara, l'antanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ce verset rappelle aux croyants que personne ne pourra atteindre la piété, personne ne pourra réellement atteindre les vrais degrés de piété tant qu'il ne donne pas ce qui lui est cher. C'est-à-dire, tant qu'on ne donne pas dans le chemin d'Allah, on ne dépense pas dans le chemin d'Allah les choses qui nous sont chères. Et en commentaire, les Mufassirin disent que la meilleure des sadaqas, la meilleure aumône, c'est lorsqu'on donne quelque chose qui a de la valeur. Et Allah Azza wa Jal, il n'accepte que ce qui est pur, que ce qui est bon. C'est pour ça que les savants, les commentateurs du Coran, les Muhadithin disent également que, on donnera un cas concret, vous savez qu'une des meilleures actions durant le mois de Ramadan, c'est de donner à manger à un jeûneur. Parce qu'on essaie d'adapter les commentaires avec le mois. D'accord ? Donc, plutôt que de parler de la sadaqa, de l'aumône d'une manière générale, on va essayer de le rattacher à ce mois. La meilleure des actions, une des meilleures des actions, c'est de permettre à un jeûneur de rompre son jeûne. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Celui qui a eu le tawfiq, qui a été choisi par Allah, pour être un intermédiaire pour qu'une personne puisse manger et rompre son jeûne, c'est vraiment là un cadeau de la part d'Allah. Parce que quelle est la récompense promise ? Le prophète a dit que celui qui accomplit cette action, Allah lui accorde la récompense du jeûne de cette personne, sans pour autant que la récompense de ce jeûneur ne soit diminuée. C'est-à-dire qu'en plus de mon saum, mon jeûne, si j'ai permis à 5, 6, 7, 8 personnes de rompre leur jeûne, ben j'ai la récompense de toutes ces personnes en plus de ma récompense à moi. Donc vraiment, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on peut donner à manger aux gens ? Ben, idéalement, c'est de donner ce que nous-mêmes, nous aimons manger, nous aimons consommer. Les savants disent qu'il y a une différence entre quelqu'un qui donne un repas qui est resté la veille et quelqu'un qui donne un repas qu'il va lui-même consommer. La meilleure des sadaqas, on l'avait rappelé l'année dernière, il me semble, quand on donne à manger aux gens, c'est de donner de ce que nous allons manger. Parce que là, nous donnons quelque chose qui nous est cher. Donc ça, c'était une petite faïda, une petite leçon de sagesse concernant cette leçon. Et il y avait, bon, maintenant, si on rentre dans les détails de tafsir, ce n'est pas le but, il y avait un sahaba, si je retrouve son nom, il avait un jardin qui lui était cher. Il avait un jardin, vous savez, en pays désertique, avoir un jardin, c'est un, mashallah, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Un pays où il n'y a que du sable et des dattiers, avoir un jardin, un verger, c'était vraiment une grande richesse. Et ce sahaba, il avait donc un verger. Si on retrouve son nom, Abu Talha, il avait un verger. Et lorsque Allah Azza wa Jal a révélé ce verset, لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ, que jamais on pourra atteindre la piété tant qu'on ne donne pas de ce qu'on aime, immédiatement, et là c'est vraiment la réaction qui nous intéresse, le sahaba il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète d'Allah, ce jardin que j'aime beaucoup, je le donne en sadaqa. Et là les muhadithin disent, au-delà de l'action qu'il a accomplie, voyez la manière de comprendre les sahaba, voyez leur relation avec le din, voyez leur relation avec les textes du Coran. Immédiatement, lorsqu'ils prennent conscience d'un ordre de la part d'Allah, ou alors d'un interdit ou d'une vertu, ils s'empressent à mettre en pratique. Et c'est ça l'objectif de la révélation. Le Coran a été révélé certes pour être lu, pour être mémorisé, idéalement si quelqu'un peut le lire de la plus belle voix, alhamdulillah, si quelqu'un peut officier la salat comme on le fait, salat al-tarawih, en lisant les versets, alhamdulillah, mais ça ne s'arrête pas là. Si une personne a une voix mélodieuse, elle maîtrise le Coran, ne fait pas de faute, mais la personne ne le met pas en pratique, même si elle le mémorise, ce Coran, au lieu d'être un allié pour lui, ce Coran témoignera contre cette personne. Quand le prophète m'a dit, Al-Quran hujjatun laka au le Coran, il est soit avec toi, soit il est soit en ta faveur, soit il témoigne contre toi. Donc, ça nous ramène vers l'objectif principal de la révélation, c'est la compréhension et surtout mettre en pratique. De nos jours, nous, on entend beaucoup de discours. On lit beaucoup de choses dans les livres, sur Internet. On a beaucoup de savants qui nous expliquent pas mal de choses, mais malheureusement, peu de gens mettent en pratique hein, ce qu'ils entendent et ce qu'ils savent. Et ça, c'est un principe que les sahaba avaient. Et vous savez que les sahaba ils disent que nous, lorsqu'on mémorisait le Coran, on parle des sahaba, là, ils ne dépassaient pas 10 versets sans comprendre et mettre en pratique. Et lorsqu'ils avaient mis en pratique, on peut dire que là, ils ont acquis la leçon. Là, ils apprennent encore 10 versets. Alors que nous, quand on enseigne à nos enfants, ou même quand nous-mêmes, on apprend par cœur, on ne fait que cumuler. On apprend, mémorise. Mais la pratique, Allah musta'an, qu'Allah nous pardonne, elle est loin. Donc ça, c'est une petite leçon concernant le début de ce quatrième juz. En fait, on n'avait pas vraiment l'intention de développer l'antana al-birra. Il y avait un autre verset, ça va prendre 3 minutes, qui nous intéresse. C'est un verset que tout le monde mémorise et c'est une bonne nouvelle. C'est un verset qui remplit les cœurs de joie. C'est lorsqu'Allah Ta'ala annonce cette bonne nouvelle que sachez que kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, que vous êtes la meilleure des communautés. Dites-moi, quelle était la umma qui avait le plus de bienfaits, on va dire matériels, de la part d'Allah? C'est qui? Si quelqu'un sait. Yassine? Les Banu Israël, le peuple de Moussa alayhi salam, ils recevaient, subhanallah, des bienfaits de la part d'Allah comme peu de gens l'ont eu. Les bienfaits qu'Allah leur accordait, c'était vraiment exceptionnel. Mais notre communauté, la Umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est qualifiée comme étant khayra, la meilleure des communautés. Et parmi les raisons, parmi les choses qui font que c'est la meilleure des communautés, c'est donc la suite du verset, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Le fait qu'on ordonne le bien et on interdit le mal. Le fait qu'on puisse ordonner le bien et interdire le mal, ça c'est une des spécificités des prophètes. Et c'est une action qui est souhaitable, qui est aimée par Allah. Maintenant bien sûr, n'ordonne pas le bien et n'interdit pas le mal, celui qui n'a pas la connaissance, celui qui n'a pas la manière, il faut vraiment bien cadrer, on doit avoir la connaissance nécessaire et la manière, la sagesse qu'il faut pour ne pas vexer, pour ne pas froisser une personne. Mais cela par opposition au communauté avant nous, que lorsqu'ils voyaient quelqu'un dans le péché, ben ça, cela ne les empêchait pas de fréquenter les gens sans jamais faire le rappel. Ça c'était une qualité hein, qui est réprouvée par Allah. Alors que de notre umma, de notre communauté, le prophète alayhi salat wa salam dit « Man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadih fa in lam yastati' fa bi lisani » Si quelqu'un voit quelque chose de mauvais, qu'il essaie de rectifier avec ses mains. Il essaie de changer le mal. S'il ne peut pas le faire, alors c'est par la bouche. Il va faire le rappel. Et si vraiment il ne peut même pas faire le rappel, ne serait-ce que par son cœur, il doit détester l'action. Nous ne devons pas être dans un état d'esprit où nous voyons nos frères et sœurs accomplir des péchés et cela ne nous fait ni chaud ni froid. Nous restons totalement insensibles au nom de la liberté individuelle, au nom de la liberté d'expression, etc. etc. C'est bien tout ça. Ça, c'est des principes hein, qui sont bien. Mais il ne faut pas oublier que mon frère ou mon fils ou mon épouse ou mes parents qui sont en train de faire un péché, je suis responsable d'eux auprès d'Allah. Et si je me dis que non, maman il est encore petit, maman il c'est 17 ans, 18 ans, on appelle ça encore maman il est encore petit, il faut les laisser s'amuser, il faut les laisser se décompresser, etc., etc. Le jour des comptes, c'est moi qui serai responsable parce que je n'ai pas fait mon rappel en tant que père. Et le problème, et là les savants ils donnent un exemple, imaginez qu'un père, hein, il apprend par le médecin de famille que ton fils, qu'Allah nous protège, après ses analyses de sang, on voit qu'il y a un problème, les plaquettes sont déréglées et tout, et donc il a une tumeur, il a un cancer. Et cet enfant il dit que c'est pas grave ça, ça va pas m'empêcher de vivre, je prends 2 Doliprane et puis c'est parti, je mène ma vie. Parce que vous savez que le cancer, qu'Allah nous protège tous, hein, c'est une maladie qui ne vous accable pas tout de suite. Il y a des gens qui peuvent vivre avec une tumeur pendant plusieurs mois, parfois des années, et à un moment donné, lorsque ça se généralise, l'état se dégrade tout d'un coup, et c'est là que la personne, hein, Allah musta'an, ça, beaucoup de gens le savent. Donc, il y a des signes qui ne sont pas forcément visibles. Mais un père qui sait que son fils ou sa fille est atteint de cette maladie, et il voit que l'enfant ne veut pas faire traitement, il veut continuer à vivre sa vie. Est-ce qu'une seconde, ce papa va dire, laissez-le vivre, laissez-le profiter de sa jeunesse? Non, parce qu'il connaît les conséquences de cette maladie. cette maladie qui, si vous le laissez, ça va attaquer tout le corps jusqu'à se généraliser. Donc il va dire que non, mon fils, quitte à le secouer, je t'emmène faire des soins parce que c'est extrêmement grave. J'aimerais te voir grandir, j'aimerais qu'un jour que tu te maries, tu as une famille, que tu sois la fraîcheur de mes yeux. Bref, ça c'est le sentiment de tout papa, de tout père ou mère envers ses enfants. Maintenant, ces parents qui savent que quelles sont les conséquences des péchés, de l'éloignement des bonnes actions, le jour des comptes, comme on l'avait rappelé hier, la pire des choses, c'est que le jour des comptes, Allah nous appelle devant son tribunal et Allah nous fait comprendre qu'il est mécontent de nous. Parce que notre passage sur cette terre n'a pas été fait correctement. Nous n'avons pas respecté les ordres d'Allah dans la continuité. Donc, la priorité des priorités, ordonner le bien, interdire le mal, ça commence chez nous. Il y a des gens qui disent parce qu'il faut être savant. Oui, idéalement, si vous voulez prêcher, il faut avoir la science et la sagesse, comme on l'a dit tout à l'heure. Les différentes façons de prêcher. Maintenant, chaque personne est responsable de sa famille. Moi, en tant que père, ce n'est pas le moulissable, le fundi, de venir prêcher à mon épouse, à mes enfants. Non, c'est moi en tant que père. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyati » Vous êtes tous des bergers. C'est une métaphore. Et chaque berger est responsable de son troupeau. Donc, le papa est responsable de l'éducation de ses enfants. Il doit veiller à l'éducation de ses enfants, faire en sorte que ses enfants ne sortent pas du droit chemin, qu'ils grandissent dans l'obéissance d'Allah. Il doit faire de son mieux pour incruster dans son cœur, le faire inculquer son identité de musulman, de créature soumise à Allah. Et ensuite, ce qui peut arriver dans la vie, c'est Allah qui sait. C'est dans les mains d'Allah. Mais moi, en tant que papa, je me dois de faire le maximum d'efforts et de faire énormément de doigts pour qu'Allah protège mes enfants. Et moi, je fais ce qui est dans ma possibilité. Et puis, tout ce qu'il y a autour, les facteurs extérieurs, puis ça, on s'en remet à Allah, Azza wa Jal. Donc, meilleur des communautés, parce qu'Allah nous a accordé ce travail de prêcher, ordonner le bien et interdire le mal. Également, parmi les faveurs qu'Allah a accordées à cette umma, Allah nous a accordé une religion qui est complète. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il y a un hadith qui stipulait qu'il y avait un Yahoud qui a été voir, si je ne me trompe pas, Umar ibn al-Khattab, un des Sahaba, qui a dit, vous musulmans, vous avez reçu de la part d'Allah, de votre Dieu, un verset. Si nous, ma'ashar al-Yahoud, si nous, tribu juive, on avait ce verset, on avait reçu cette révélation, on aurait pris ce jour où ça a été révélé comme un Eid, comme une fête. Mais malheureusement, on n'a pas eu ce que vous avez eu de la part d'Allah. Ce verset, c'est « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum ». En ce jour, Allah a parachevé la religion. C'est-à-dire que le din est complet, complet, il n'y a rien à rajouter ni à enlever, et il est parfait. Parce que c'est la révélation d'Allah. C'est comme si que le din a été cacheté. Il y a un sceau qui dit qu'il est applicable à toutes les époques et parmi toutes les populations sans que jamais la pratique de la religion n'aille en porte-à-faux ou ne soit en contradiction avec notre rythme de vie, quelles que soient les époques. Donc ça, c'est également une des faveurs qu'Allah nous a accordées qui fait de nous, on va dire, la meilleure des communautés. Parmi les faveurs qu'Allah nous a accordées également, la facilité de l'accomplissement des bonnes actions. Le prophète, alayhi salatu wa salam, une fois avait dit que Allah m'a accordé ce qu'il n'a accordé à personne. Et parmi ça, il avait dit « Nusirtu bil-ru'b », c'est-à-dire que, bon, ça c'est pas mal de bienfaits qu'Allah lui a accordé. Entre autres, les ennemis du prophète sallam avaient peur de lui. Les ennemis ressentaient une crainte lorsqu'ils entendaient son nom. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a cité pas mal de bienfaits. Et parmi cela, quelque chose de vraiment simple. « Waju'ilat turab li tahura » Allah fait que la terre est pure. Et les savants disent qu'il y a deux choses. N'importe quel endroit, on peut faire la salat. Alors que dans d'autres religions, s'il n'y a pas le lieu de culte, ils ne peuvent pas officier. Tandis que nous, on a une masjid, alhamdulillah, mais quelqu'un il va à la plage, quelqu'un il va à la montagne, il va en pique-nique, l'heure de la salat, alhamdulillah, la terre est pure, toute la terre est pure, et il a la possibilité de se prosterner devant Allah, d'accomplir son devoir. Et enfin, il dit, وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمْ Et Allah fait de ma communauté la meilleure des communautés. Et parmi également, l'avant-dernier point qu'on va citer, parmi les choses qu'Allah nous a accordées que personne n'avait eues, dans un hadith, il dit que Isa alayhi salam, qu'Allah azza wa jalla avait dit à Isa, ya Isa, inni ba'ithun ba'daka umma, in asabahuma yuhibbuna hamidu wa shakaru, jusqu'à la fin du hadith que, ô Isa, sache que après toi, il y aura une communauté qui, lorsqu'ils obtiennent un bienfait, alors ils se montrent reconnaissants. Et dans d'autres hadiths, hein, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit que vraiment la situation du croyant, c'est-à-dire de cette umma, elle est spécifique. Lorsqu'Allah accorde un bienfait à l'un d'entre vous, il suffit que la personne se montre reconnaissante et remercie Allah, et ce sera là une bonne action pour elle. Allah m'a accordé quelque chose de bien, et je remercie, je fais choukar comme on dit, et c'est là une bonne action. Et lorsque l'un d'entre vous est éprouvé et qu'il fait preuve de patience, là aussi il y a un bien pour lui, là aussi c'est considéré comme une bonne action. C'est-à-dire, quelles que soient les situations de la vie, il suffit que le cœur se connecte à Allah pour que ce soit une bonne action. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique à cette umma, à cette communauté que personne n'avait eu avant. Et enfin, pour conclure, ça c'est la bonne nouvelle. J'espère qu'on fera de beaux rêves ce soir avec ça. Le prophète m'a dit que U'titu 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighayri hisab wa wujuhum kal-qamari laylat al-badr. Le prophète m'a dit qu'Allah m'a accordé en cadeau, comme faveur, que dans ma communauté, il y aura 70 000 personnes qui entreront au paradis, bireli hisab, ça veut dire sans rendre compte, sans avoir à passer auprès du tribunal d'Allah, à recevoir le livret de compte, à connaître les difficultés. C'est-à-dire, le jour des comptes, ces personnes-là vont être invitées à rentrer immédiatement dans le paradis sans rendre compte. Et le prophète sallam continue, qulubuhum ala qalbi rajul wahid. Le prophète sallam dit ensuite, j'ai demandé à Allah de m'accorder encore et encore. Fazadani ma'a kulli wahid 70 alfa. Et Allah azza wa jalla lui a accordé encore plus de faveurs que pour chaque personne, chacun d'entre ces 70 000, il y aura encore 70 000. C'est-à-dire que ce sont là, mashallah, les meilleurs des hommes. Bon, c'est sûr qu'à la tête, il y aura les sahaba, les tabi'in, les gens qui étaient les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est une bonne nouvelle parce que chaque croyant, le prophète n'a pas spécifié que ce sont mes compagnons, c'est ma umma. Donc chaque croyant doit avoir cet espoir que, inshallah, je ferai partie de ces gens qui entreront dans le Jannah bighayri hisab sans rendre compte. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, il faut développer au maximum la crainte d'Allah, l'amour d'Allah, l'accomplissement des bonnes actions, l'éloignement total des péchés, faire en sorte que jamais je ne me mets dans une situation où Allah portera sur moi un regard de colère, où Allah risque d'être mécontent de moi. Et il faut demander cette position, il faut demander ce grade à Allah Azza wa Jal. Quand le prophète avait annoncé ça aux sahaba, vous savez qu'il y avait un fameux sahaba qui s'est levé, il s'est dit au prophète d'Allah, fais doua, demande à Allah de me choisir pour être parmi ces gens-là. Et le prophète a demandé doua pour lui. Comment s'appelait ce sahaba? Il a un nom spécifique, c'est un hadith connu. Il s'appelait Ukasha. Si vous avez déjà entendu du hadith, Ukasha, c'est un sahaba, il s'est levé, dit au prophète d'Allah immédiatement, demande à Allah de m'accorder cette faveur, que je fasse partie des 70 000. Et le prophète m'a demandé doua, et assurément Allah l'a choisi pour faire partie de ces 70 000. Donc, les savants disent également que lorsqu'on entend ce hadith, ben nous devons avoir cette envie, cette tamar, cette motivation de faire partie de ces gens. C'est vraiment le nectar, les meilleurs des hommes. Et donc, demander à Allah, Azza wa Jalla, en permanence, dans nos doigts, ça doit occuper la place la plus importante. Hier, on a appris, quel doigt? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est bien, on l'a mis en pratique aujourd'hui, inshallah. Mais également, on doit demander, oh Allah, accordez-moi la chance, l'honneur de faire partie de ces gens-là qui vont entrer dans le Jannah bi ghayri hisab. Qu'Allah nous accepte, inshallah. Et dernier petit conseil avant de terminer le Ramadan, on le vit bien, alhamdulillah, avec beaucoup de mahabba dans cette masjid. Il faut faire en sorte que les membres de la famille également vivent le Ramadan correctement, madame et les enfants. Par exemple, il ne faudrait pas que moi, quand je viens à la masjid, mon épouse est devant le feuilleton brésilien ou en train de regarder la télé, que mes enfants en train de regarder bêtement les dessins animés, en train de jouer des jeux vidéo, la Wii, la PlayStation, ce serait vraiment khassar. Il faut faire en sorte que l'ambiance du Ramadan soit présente dans la maison. Et vous savez, le prophète m'a dit que ne faites pas de vos maisons comme des cimetières maqabir. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que les prières, on les fait uniquement à la mosquée. Faites en sorte de faire des prières également chez vous. Pourquoi? Pour que l'ambiance de ibada baigne également à la maison. Pour que la rahmat d'Allah descende également de nos maisons. C'est-à-dire que les namazes, les salats obligatoires, bien sûr, on les fait en congrégation. Mais les autres salats, les rawatib, comme on dit les sunnan, le muqadda ou le muqadda, les nafil, etc., on fait en sorte de les faire à la maison. Par exemple, avant de venir à salat al-fajr, vous faites vos deux rakats chez vous. Et non pas à la masjid. si c'est possible. Maintenant, c'est une habitude, ouais, et bon, après, chacun connaît ses circonstances. Mais le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'on accomplisse un maximum d'actes d'adoration à la maison aussi. Il y a deux choses. Un, pour que la bénédiction d'Allah descende, le Coran. Plutôt que de lire le Coran, par exemple, dans la masjid, ben, il serait mieux de lire à la maison. Vous savez que quand on lit le Coran dans la maison, les shayatines fuient. Alors, si je lis beaucoup, 2, 3, 4 juz par jour, si je peux être chez moi, autant le faire chez moi plutôt qu'à la masjid. Au moins, c'est une source de baraka, de bénédiction pour toute ma famille, mon épouse, mes enfants, mon toit sera illuminé par la parole d'Allah. Et c'est une source de motivation également pour la femme et les enfants. Pareil pour la rupture du jeûne. Ça, c'est pas, il n'y a pas de hadith, mais ça vient de moi. Oh, maintenant, si quelqu'un peut rompre son jeûne à la maison et venir à la masjid, c'est pas mal non plus. Si on habite proche, je veux dire. Maintenant, si on est loin, c'est pas possible. Pourquoi? Bon, parce que, on avait vu hier qu'au moment de rompre le jeûne, le doigt est accepté. Il ne faudrait pas qu'avant de rompre le jeûne, les gens ils sont éparpillés dans 50 trucs différents, dans des choses mondaines, et que lorsqu'ils entendent le hadan, ils voient qu'il est 5h52, 17h52, là, ils se précipitent, ils vont manger. Non, il faut faire en sorte que moi, père de famille, je suis responsable, je connais les vertus qu'il y a lorsqu'on rompt le jeûne. Je donne l'exemple. Je dis à mes enfants, c'est fini, on éteint la télé, on arrête les devoirs, on arrête tout, tout le monde se réunit, on va faire doigt. Que les enfants voient le papa dans les invocations, dans les doigts, au moins 10-15 minutes, afin que d'année en année, ils grandissent avec cette vision. Et quand ils seront grands, ils vont comprendre que, je me rappelle, mon père, au moment de rompre le jeûne, il faisait rien d'autre. Il était dans les doigts, il demandait les doigts, il pleurait, il demandait à Allah telle chose, telle chose. Tout ça, ça fait partie de la tarbiya. On appelle ça la tarbiya bil qudwa. L'éducation par l'exemple, par le modèle qu'on donne, au-delà de l'éducation par les paroles, que moi, en tant que papa, je montre l'exemple. Donc ça, Inch'Allah, on essaie maximum de montrer le bon exemple, faire en sorte que toute ma famille également vive le Ramadan. Qu'Allah nous accepte, nous donne la persévérance de nos actions. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.